Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
Alors allons-y.
Let's do it.
I have good news for you.
C'est l'heure de la Formule Express.
J'adore ça.
Ah bon? Oh, fais pas chier.
On essaye? Allez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran Express. C'est Eric. Et aujourd'hui, je vous propose de voyager à Hong Kong pour vous raconter la genèse de Chung Hee Express, réalisé par Wong Kar-wai en 1994. À mi-chemin entre le polar et la comédie romantique, Chung Hee Express est un film d'auteur qui ne s'interdit rien, que ce soit dans sa construction dramatique atypique ou encore son ambiance visuelle branchée qui parvient à rendre glamour les quartiers urbains populaires de Hong Kong. Plus qu'un film culte, Chung Hee Express est littéralement considéré comme la pierre angulaire d'un cinéma cantonais, pourtant en pleine déliquescence à cette époque. Cette proposition hors norme va revigorer cette industrie tout en imposant aux yeux du monde son duo créatif principal, l'auteur-réalisateur Wong Kar-wai et son chef opérateur image Christopher Doyle. Pour autant, nous verrons que la réussite du film ne se réduit pas qu'à ces deux personnages, certes prodigieusement talentueux. Avec un tel pédigré, on pourrait penser que Chung Hee Express est une œuvre finement réfléchie et très minutieuse dans sa réalisation. Et pourtant non. C'est un film fait à l'instinct, pour ne pas dire à l'arrache, alors que la jeune carrière de Wong Kar-wai enquille les déconvenues. Osons le dire, Chung Hee Express est même un film qui n'aurait jamais dû exister.
On a tous ses habitudes. La mienne, c'était d'attendre Mei ici, après son travail. Le patron trouve que Mei ressemble à Demi Moore. On vient de rompre. Mais il dit que je ne ressemble plus à Bruce Willis.
Chung Hee Express est constitué de deux histoires dans le Hong Kong de 1993. Dans le premier récit, le policier matricule 223 peine à se remettre de sa séparation avec sa petite amie Mei. Il noie son chagrin dans les bars et s'empiffe de boîtes d'ananas périmées, périmées du mois de mai. Un soir où la solitude est trop forte, il décide de se lancer un défi.
Je me suis promis de tomber amoureux de la première femme qui entrera ici.
C'est alors qu'une étrange tueuse à gages entre dans le bar.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Whisky, s'il vous plaît.
Alors que nous sommes à peine à la moitié du film, le matricule 223 fait sa pause déjeuner dans un fast-food, le Midnight Express. Il tombe sur la serveuse, une jeune femme du nom de Fei. Son histoire s'arrête alors brutalement pour laisser place à un second récit.
Au moment où l'on se croise, à peine un millimètre nous sépare. Je ne savais rien d'elle. 6 heures plus tard... elle est tombée amoureuse d'un autre.
Désormais, nous abandonnons totalement le matricule 223 pour suivre un autre policier, le matricule 663. Lui aussi n'arrive pas à faire son deuil de sa relation amoureuse avec une hôtesse de l'air. Alors qu'il fait sa pause dans le même fast-food, il fait la rencontre de Fei. Fei tombe amoureuse du matricule 663. Mais ce dernier n'est pas prêt à aimer une autre femme. Elle va alors s'introduire chez lui à son insu, faire son ménage et déplacer subtilement certains objets afin de pénétrer dans son quotidien pour ensuite espérer rentrer dans sa vie.
Ah ! Qu'est-ce que vous faites là ?
Je suis chez moi.
Chez vous ?
Et vous ?
Je viens d'acheter des poissons rouges.
Personne n'en vend ici.
Pardon ?
Vous venez en acheter ?
Oui.
Ou vous venez en vendre ?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais arrêtez de m'interroger comme ça. Vous me bousculez tout le temps. J'ai peur que je sais plus ce que je dis.
Chung Hee Express est le troisième long-métrage de Wong Kar-wai, ou son quatrième. Rien que sa place dans la filmographie de son auteur n'est pas facile à déterminer. Mais pour bien comprendre comment le film s'est construit, il faut prendre le temps de retracer les débuts de la carrière de son cinéaste. Wong Kar-wai est né à Shanghai en 1958. D'origine modeste, sa famille fuit la révolution culturelle non sans mal, et le jeune Wong débarque à Hong Kong à 5 ans. Il grandira sur la péninsule de Kowloon, la zone la plus chaotique et bigarrée de la ville, et plus particulièrement dans le quartier de Tsim Sha Tsui. C'est un quartier extrêmement populaire, où s'entassent les bars, les restaurants bon marché, les communautés et les petits trafics. C'est aussi un quartier où pullulent les cinémas. Étant donné que c'est un divertissement bon marché, la mère de Wong Kar-wai prend l'habitude d'emmener son fils découvrir les grands classiques. Une vocation de cinéaste va naître en lui. Wong Kar-wai commence dans l'industrie en tant que scénariste. Il se fait embaucher par la société Cinema City, une structure qui connaîtra de nombreux succès, notamment en 1986 avec le syndicat du crime A Better Tomorrow de John Woo, coproduit avec la Film Workshop de Choi Ark. Mais au bout d'un an, Wong quitte la société car il aura été incapable d'écrire le moindre bout de script dans cet univers très codifié, aussi bien sur l'écran qu'en coulisses. il décide de devenir freelance et d'écrire pour des films modestes, tournés rapidement dans des quartiers chauds, à l'instar de son quartier d'enfance. Dans une interview pour le livre Hong Kong Babylone, il dit « J'ai travaillé pour des réalisateurs qui n'avaient pas beaucoup de succès, et j'ai beaucoup appris de leur manière de faire des films à tout petit budget et très rapidement. L'un des réalisateurs était même un gangster. On pense que ces gens sont des durs, mais une fois que l'on commence à travailler avec eux, ils ne sont pas si différents. Je chéris les expériences de vie de cette période. » Au fil de ses projets d'écriture, Wong Kar-wai va rencontrer deux personnes clés pour la suite de sa carrière. Le premier est le scénariste Jeffrey Lo, qui deviendra par la suite réalisateur et producteur. Lo est spécialiste du cinéma commercial, généreux et efficace, et câblé sur les modes du moment. A priori, quelqu'un de très loin de Wong Kar-wai. Et pourtant, les deux hommes vont nouer une relation de travail très forte et complémentaire, le sens commercial de Jeffrey Lo cadrant les idées plus artistiques de Wong. Ils co-écrivent la comédie horrifique Haunted Cop Shop, que dirige Lo en 1987, ou encore le polar Fleming Brothers avec Chow Yun-fat. L'autre personne clé est le réalisateur Patrick Tam. C'est un vétéran de la nouvelle vague de réalisateurs et de réalisatrices des années 70, comme Choi Ark ou Hanoi. Tam prend le jeune Wong sous son aile et l'encourage à développer des projets plus ambitieux, et surtout d'écouter ses envies de réalisation. Ensemble, Patrick Tam et Wong Kar-wai imaginent le traitement d'une trilogie de polar racontant trois moments de la vie de deux amis gangsters, trilogie dont ils se partageraient la réalisation. Finalement, le projet évoluera en deux films distincts. Le premier est Final Victory, réalisé en 1987 par Patrick Tam et co-scénarisé par les deux hommes. C'est d'ailleurs le seul scénario que Wong Kar-wai assume de ses débuts. Le second film est As Tears Go By en 1988 et c'est le long métrage qui marque les débuts de Wong Kar-wai à la réalisation depuis un scénario co-écrit avec Jeffrey Lo. As Tears Go By est un polar urbain, violent et désespéré, très inspiré par Mean Street de Martin Scorsese. Dans ce premier film, Wong Kar-wai démontre un véritable goût pour les comédiens et leurs personnages. Le casting réunit les jeunes stars Andy Lau, Jackie Chan et Maggie Chan, dont c'est le premier rôle vraiment consistant, loin des compositions légères de Demoiselles en détresse dans les films de Jackie Chan. En interview dans les Cahiers du cinéma en mars 1999, la comédienne se souvient. « Avant Wong Kar-wai, être actrice signifiait pour moi réagir, hurler de rage sans conséquence, pleurer comme une enfant, sautiller, séduire en un clin d'œil. On me demandait d'être une présence, au charme immédiat. Alors qu'avec As Tears Go By, j'ai cherché la profondeur des sentiments. » Je me suis découverte un corps de cinéma fait de liaisons entre la pensée et les mouvements. En coulisses, Wong Kar-wai s'entoure de collaborateurs qui vont enrichir sa famille créative. Tout d'abord le décorateur William Chang, qui va devenir un partenaire très important pour la suite de sa carrière. Chargé de trouver des lieux de tournage ayant du cachet, le travail de Chang prend une ampleur toute particulière dans le processus créatif de Wong Kar-wai, comme il l'explicite dans cette interview.
Je ne peux pas écrire sans connaître l'espace, le décor. J'ai besoin de situer où l'histoire se déroule et comment elle se déroule entre les personnages. J'ai besoin d'écrire à partir d'un décor. Et je peux même inventer une histoire si un lieu m'inspire. Je peux en sortir une histoire.
Avec ses allers-retours permanents entre repérage et écriture, Chang peut véritablement être considéré comme un directeur artistique, voire un partenaire de développement narratif. Retenez bien cette information, car elle prendra beaucoup d'importance plus tard. Au niveau de l'image, Wong Kar-wai souhaite dynamiser le polar urbain en le rendant plus réaliste, mais sans exclure le romantisme. Il mise sur le chef opérateur Andrew Lau, à qui l'on doit la photographie de City on Fire de Ringo Lam. Pour l'anecdote, le nom d'Andrew Lau vous dit peut-être quelque chose. Il est désormais reconnu pour être le réalisateur du formidable Infernal Affair en 2002.
Film remaké par Martin Scorsese sous le titre Les Infiltrés en 2006.
J'ai le sentiment qu'on a un flic dans mon équipe.
Tôt ou tard, il découvrira qui je suis et il me tuera.
Détends-toi, nous sommes les deux seules personnes au monde à savoir que t'es flic.
Mais avant cela, soulignons qu'Andrew Lau n'était pas un enfant de cœur et qu'il n'a pas hésité à faire ses débuts de cinéaste avec la série des Young and Dangerous. Des films faisant la promotion des triades à une époque où l'argent sale affluait dans le cinéma local. En bref, Lau est très talentueux, mais c'est aussi un marlou. Une personnalité telle que les aime Wong Kar-wai.
J'ai dans l'idée que toi et moi, on va bien s'entendre.
Pour revenir à la photographie d'Astiers Gobay, Andrew Lau comprend bien les intentions de Wong Kar-wai et lui propose de filmer une grande partie du film à l'épaule, de manière très mobile. Il suggère même au cinéaste un effet qui deviendra l'une de ses signatures, le step printing. Il s'agit de filmer en accéléré pour ensuite ralentir l'image en laboratoire afin de retrouver une cadence normale à 24 images par seconde. Lau s'approprie cet effet en filmant à 6 images par seconde afin que, une fois ralenti, le temps d'apparition d'une image soit multiplié par 4. L'obturateur de la caméra est réglé afin de rendre flou les éléments qui bougent et net ce qui est fixe. Ainsi, le film devient chaotique et saccadé tout en affichant des zones de netteté et de flou dynamique à l'écran. Pour accompagner ce filmage hors norme, Wong Kar-wai souhaite moderniser la bande sonore et a l'idée d'utiliser des tubes musicaux à connotation internationale. Il mise sur une reprise cantonaise de Take My Breath Away pour un résultat particulièrement marquant. Astiers Gobay fait un très beau score au box-office local et est copieusement nommé aux Hong Kong Movie Awards, l'équivalent des Césars pour l'ex-colonie. Même s'il ne remporte pas de statuette, c'est un très beau début. En revanche, d'un point de vue international, le film ne parvient pas à franchir les frontières. Il est pourtant présenté à Cannes en 1989, à la Semaine de la Critique, mais il ne trouve pas de distributeur occidental derrière. Aux yeux du monde, Wong Kar-wai est encore un inconnu. Fort du succès local de son premier film, Wong Kar-wai est approché immédiatement pour un second projet. Il en profite pour imposer davantage ses ambitions. Il ne veut plus se cantonner au polar et souhaite s'ouvrir un cinéma d'auteur centré sur des personnages complexes. Plus étonnant, il souhaite travailler le film de manière libre, c'est-à-dire de commencer le tournage avec une trame de scénario pour ensuite construire l'histoire au fur et à mesure des inspirations et de l'apport de chacun. Bien évidemment, cette demande paraît dingue dans l'industrie cinématographique du Hong Kong de 1990. À cette époque, les films sont produits très rapidement pour que la rentabilité soit optimale. Aussi, l'industrie repose sur une poignée de stars qui ne peuvent attribuer qu'une quantité de jours de tournage limitée à chaque film. Les plannings doivent donc être très précis et efficaces. Mais les stars, justement, Wong Kar-wai sait leur parler. En leur promettant des rôles plus étoffés dans un film plus rigoureux, il réunit les grands noms du moment. Leslie Cheung, Maggie Cheung, Andy Lau, Karina Lau et Jackie Cheung. Autant de stars dans un même film, c'est quasiment du jamais vu. Sans même qu'une image soit tournée, le producteur prévend le film dans toute l'Asie. Wong Kar-wai s'installe aux Philippines et débute alors le tournage de son second long métrage, Nos années sauvages. Le film raconte l'histoire d'un jeune homme, joué par Leslie Cheung, à la recherche de sa mère biologique. Il enchaîne les rencontres amoureuses sans être capable d'aller au bout de ses romances. Côté coulisses, on ne change pas une équipe qui gagne et Wong Kar-wai s'entoure de ses fidèles. Jeffrey Lau à la coécriture, William Cheng à la direction artistique. En revanche, Wong souhaite délaisser les effets de style pour miser sur une mise en scène plus introvertie, plus composée et picturale. Il engage un nouveau chef opérateur, l'atypique Christopher Doyle. D'origine australienne, Doyle est avant tout un aventurier. Il bourlingue en Inde, en Thaïlande, pour finalement s'installer à Taïwan dans les années 70. Il se met à la photographie par hasard, puis fait ses armes en tant que chef opérateur. Il travaille avec le cinéaste taïwanais Edward Yang, puis débarque à Hong Kong pour travailler avec Patrick Tam, que connaît bien Wong Kar-wai. Wong et Doyle forment vite une paire créative qui fait des étincelles, mais pas dans le bon sens. Dans une interview dans les Cahiers du cinéma en novembre 1998, Wong Kar-wai dit « Les premiers contacts avec Chris ont été cauchemardesques. Il venait d'arriver à Hong Kong et j'étais moi-même un débutant. Sur le plateau, on était beaucoup en désaccord. Ce n'est qu'en voyant le résultat que nous avons reconnu l'intérêt de travailler ensemble. » Wong et Doyle tournent beaucoup, tâtonnent, recommencent, improvisent, développent les personnages et de ce fait l'histoire. Cependant, la date de livraison du film approche. Il y a tellement de matière que Wong Kar-wai décide que Nos années sauvages sera une œuvre en deux volets. Une première partie constituée des séquences déjà tournées et une autre qui nécessitera un rajout de tournage pour être complétée. Effectivement, le plan final de Nos années sauvages introduit subitement un personnage inconnu interprété par Tony Leung Chiu-wai. Bien habillé dans une petite chambre décrépite, on le voit fumer une cigarette, puis éteindre la lumière, quitter la pièce et… générique de fin. Bien entendu, ce plan est à imaginer comme un teaser pour la deuxième partie, qui n'existera jamais. Si Nos années sauvages est très bien représenté aux Hong Kong Movie Awards, si Leslie Cheung reçoit la statuette du meilleur acteur et Wong Kar-wai celle du meilleur réalisateur, le film est une cruelle déception au box-office. De toute évidence, en Asie, le grand public n'est pas encore prêt à un cinéma aussi exigeant. Quand Christopher Doyle réalise que les nombreuses séquences tournées pour Nos Années Sauvages 2 ne seront jamais vues, il avoue en interview avoir envie de pleurer. Pour son prochain projet, Wong Kar-wai monte sa propre société, la Jetton Production, tout en associant son partenaire de toujours, Jeffrey Lowe. Wong souhaite conserver la liberté artistique de Nos Années Sauvages tout en se mettant en phase avec les attentes du public. Il mise sur le Wuk Zapian, le film de chevalerie, un genre très apprécié qui permet de l'action sans compromettre ce qui intéresse vraiment Wong, à savoir la peinture de personnages torturés. Il se plonge dans le roman « La légende du héros chasseur d'aigle » de Jin Yong, dont il ne garde que la trame afin de construire ce qui devient son troisième film, « Les cendres du temps ». Il s'entoure à nouveau de William Cheng à la direction artistique et de Christopher Doyle à l'image. Conscient que sa liberté artistique est proportionnelle au nombre de stars sur l'affiche, Wong fédère un casting encore plus énorme que Nos Années Sauvages. Leslie Cheung, Maggie Cheung, Karina Lo, Jackie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Tony Leung Ka-Fai, Brigitte Lin et même Joey Wong, la comédienne superstar depuis le succès international d'Histoire de fantômes chinois, du jamais vu. Malheureusement, le tournage va virer au cauchemar. L'équipe tourne à la frontière du désert de Gobi, dans des conditions difficiles, aussi bien logistiquement que physiquement. Si les images sont magnifiques, telles des tableaux, le tournage avance trop lentement et les accidents se multiplient, comme Leslie Cheung, qui sera piqué au cou par un scorpion, occasionnant un arrêt de tournage. Mais le plus gros souci vient de la méthode même de Wong Kar-wai, à savoir refuser de tourner avec un scénario totalement écrit, afin de construire le film à même le plateau. Cette méthode qui avait donné Nos Années Sauvages ne s'applique pas à l'ampleur d'un film comme Les Cendres du Temps, à savoir un film en costume, avec de la figuration et des scènes d'action. Les retards et les dépassements de budget s'accumulent de manière dramatique. La conséquence directe s'impacte avant tout sur les plannings des stars qui deviennent ingérables. En effet, les comédiens connus sont sursollicités. Ils ont même l'habitude de tourner jusqu'à 2 à 3 films en même temps et beaucoup ont en plus une carrière musicale. En sortant des clous, le tournage des Cendres du Temps doit régulièrement s'arrêter afin de réaligner les plannings. Malheureusement, les premiers gros dégâts se font ressentir quand Joey Wong doit quitter le navire tant la marge de manœuvre de ses disponibilités est épuisée. Elle sera remplacée par Charlie Young, une jeune actrice qui n'a pas encore la notoriété de son aîné. Inutile de préciser que de nombreuses séquences avec le personnage de Joey Wong ont déjà été tournées et qu'il faut tout reshooter, occasionnant de nouveaux dépassements. Le budget du film s'épuise, et des séries de stop and go s'imposent à l'équipe afin de lever de nouveaux fonds tout en délayant énormément le temps de production. Pressé par les investisseurs, il faut trouver des solutions, y compris les plus improbables. Durant une pause, Jetton produit Eagle Shooting Heroes, la version parodique du film, écrite et réalisée par Jeffrey Lowe et recyclant le gros du casting des Cendres du Temps. C'est l'une des rares fois dans l'histoire du cinéma que la version comique sort avant le véritable film. Nous sommes maintenant en 1993, et la production fleuve des Cendres du Temps est dans sa deuxième année, une durée impensable pour l'industrie de Hong Kong. Le film entre en post-production, mais Wong Kar-wai n'est pas sorti d'affaire pour autant. Il doit raconter une histoire fluide, avec la montagne de rush éparse issue de l'inspiration du moment. Le film s'assemble, mais le montage finit par bloquer. Il paraît évident que le film a besoin de reshoot son et de voix off des acteurs pour faire tenir sa narration trop éparse. Wong Kar-wai doit encore réagencer les plannings de disponibilité des acteurs et doit attendre 2 mois afin que tout le monde se libère. Une nouvelle pause qui enfonce encore plus le film, tandis que la presse locale ne se prive pas de faire ses choux gras de sa production catastrophique. Durant cette ultime pause, Wong Kar-wai a 2 options face à lui. Ou bien déprimer tout seul dans son appartement en attendant que le temps passe, ou bien réunir les quelques personnes de l'équipe disponibles et faire un film à toute vitesse pour, je cite, pensez à autre chose. D'après vous, que va-t-il se passer?
Dis, tu as vu Faye? Elle est mignonne, pas vrai?
Qui c'est?
C'est ma petite nouvelle. Tu l'as même pas remarqué. Je te conseille de te dépêcher avant que Richard te chipe celle-là aussi.
Nous avons fait une longue circonvolution pour vous parler enfin de Chang'e Express, mais il était important de détailler tous les événements qui se sont petit à petit agglomérés pour exploser ici de manière instinctive dans ce film conçu en réaction à ce contexte, tourné et monté en seulement 2 mois. Aux prémices du projet, Wong Kar-wai imagine un film constitué de trois histoires courtes tournées dans le Hong Kong contemporain en décor naturel. Pour s'assurer de l'intérêt du public local, il décide de mettre en scène des personnages de policiers afin de donner une couleur un peu polar à l'ensemble. Cependant, son objectif est de laisser libre cours à ce qui irriguait en toile de fond ses précédents films, à savoir les destins amoureux. Finalement, Wong Kar-wai simplifie son projet à seulement deux histoires. Un homme aime une femme aime un homme. Il décide de tourner de manière chronologique, séquence après séquence, car cela lui permet d'écrire la veille les scènes à mettre en boîte pour le lendemain. En parallèle, il mobilise ses fidèles, Jeffrey Lowe à la production, William Cheng à la direction artistique, ainsi que les deux chefs opérateurs de ses précédents films, Andrew Lowe et Christopher Doyle, qui se chargeront chacun d'un segment du film. Du casting des Cendres du Temps, Wong Kar-wai convainc Brigitte Lin de tourner pendant quelques nuits, bien qu'elle soit accaparée le jour par une pièce de théâtre en costume. Il approche également Tony Leung Chiu-wai, car cela lui permet de rebondir sur le plan final de Nos années sauvages et de donner en quelque sorte une suite à son apparition laissée à l'abandon. L'acteur se souvient de son appel. Au départ, il n'était pas prévu que je joue dans Chengye Express. Le tournage a commencé et un jour, il m'appelle et me dit « Est-ce que tu peux jouer pour moi dans le film ?» Je lui réponds « Je suis désolé, je suis en plein travail sur mon album. Je n'ai que 10 jours à t'accorder. » Et là, il m'a répondu « Ok, 10 jours, ça suffira. » Wong Kar-wai boucle le casting avec l'acteur sino-japonais Takeshi Kaneshiro, alors débutant. Pour le rôle de la lumineuse Fei, il mise sur une comédienne novice mais superstar de la chanson, Fei Wong. Si le générique l'annonce comme son premier rôle au cinéma, soulignons que Fei Wong était déjà apparu en 91 dans Byung Diary de Francis Sung. Maintenant que le casting et l'équipe sont sécurisés, Wong Kar-wai peut se laisser inspirer par les décors comme il aime le faire. Il décide de tourner le premier segment dans son quartier d'enfance de Tsin Sha Tsui, qu'il connaît sur le bout des doigts. Il ambitionne de tourner dans l'improbable Chungking Mansion, une immense galerie marchande de 17 étages où s'entassent petites boutiques et hôtels bon marché squattés par une population précaire. Tandis qu'il débute le tournage de la première partie, il missionne le décorateur William Cheng de gérer les repérages du deuxième segment. Cheng va lui aussi se rapprocher des quartiers où il a grandi et qu'il connaît par cœur, en l'occurrence le quartier d'affaires appelé Central, sur l'île de Hong Kong. Ses recherches rayonnent autour d'un fast-food très connu du quartier, le Midnight Express. Maintenant que chaque partie contient son décor principal, la Chungking Mansion d'un côté et le Midnight Express de l'autre, le titre du film est tout trouvé. Ce sera Chungking Express.
On a tous des peines de cœur. Quand j'ai le cœur brisé, moi je cours. Courir m'aide à évacuer l'eau de mon corps pour ne plus avoir de larmes.
Le tournage de la première partie débute en mode guérilla, à même la rue et en petite équipe. Bien entendu, c'est le talent incroyable d'Andrew Lowe à la caméra épaule qui va définir en premier lieu l'esthétique du film. Une esthétique crue et dynamique qui compose avec les contrastes offerts par les lumières urbaines. Avec leur passif, Lowe et Wong n'ont pas peur de plonger leur caméra dans les quartiers chauds où règne l'économie parallèle alors qu'ils n'ont aucune autorisation de tournage. L'effet du step printing qu'ils ont développé pour Astier's Cobaye est ici copieusement utilisé pour des plans absolument saisissants dans les allées bondées de la Chungking Mansion. Wong Kar-wai dit vouloir souligner avec cet effet le dynamisme hors norme de Hong Kong et tout particulièrement de ce quartier qui ne s'arrête jamais. Pour des raisons de production, certaines séquences sont tournées dans les Mirador Mansion, des immeubles similaires mais plus petits et moins densément peuplés. La star Brigitte Lin rejoint le plateau tard le soir après ses représentations au théâtre. Il n'y a pas le temps de la démaquiller et de la coiffer pour lui redonner un look contemporain. Wong Kar-wai décide d'en faire une force et de la fumer d'une perruque blonde, de lunettes rouges et d'un trench coat. Cette contrainte lui permet de rendre hommage au personnage de Gina Roland dans Gloria de John Cassavetes, un film qu'il adore.
Il n'y a à mon avis que trois raisons pour qu'une femme porte des lunettes noires la nuit. Ou bien cette femme est aveugle, ou c'est une petite snob qui l'aimait pour la frime, ou bien alors elle a le cœur brisé et elle ne veut pas que les gens la voient pleurer.
Au départ, le scénario de cette première partie met en scène le policier joué par Takeshi Kaneshiro tenté de rentrer dans la vie d'une star de cinéma jouée par Brigitte Lin afin de la convaincre de l'aider à démanteler un trafic de drogue opéré par des Indiens. Mais Wong n'est pas satisfait de la tournure que prend son histoire au fil de ses premiers jours. Il réarrange complètement les personnages et la narration alors que le tournage a déjà commencé. Finalement, Brigitte Lin devient une tueuse à gages et c'est elle qui dirige le commerce de drogue avec les Indiens. Le plan d'ouverture où Takashi Kaneshiro la poursuit dans la Chungking Mansion a donc été tourné avec la première histoire en tête.
Bien se connaître ne veut pas dire s'aimer. Tout le monde change. Un jour, on aime les ananas. Le lendemain, autre chose.
Pour le tournage de la seconde partie, l'équipe s'installe sur l'île de Hong Kong et utilise le contraste offert par le quartier plus aisé de Central. La comédienne Valérie Cho, aperçue dans The Blade de Choi Ark, rejoint le casting pour incarner l'ancienne petite amie et hôtesse de l'air lors de flashbacks.
Je trouve que t'es mieux en uniforme.
Toi aussi.
Au niveau de la photographie, Andrew Lau cède la caméra à Christopher Doyle, bien qu'il le remplace encore sur quelques jours d'indisponibilité. Il y a dans ce relais un véritable système de parrainage qui construira définitivement le style visuel de Doyle. En effet, sur Nos années sauvages et Les cendres du temps, Doyle utilise principalement la caméra sur pied. C'est grâce à ce passage de relais qu'il va intégrer le style sur le vif d'Andrew Lau, comme l'explique Wong Kar-wai.
Nous n'avions pas le temps de poser la caméra sur pied, alors nous avons beaucoup tourné, caméra épaule. Chris Doyle était très influencé par Andrew Lau, car il était très impressionné par son travail.
Christopher Doyle transcende littéralement le style d'Andrew Lau. Il le modernise, le rend plus séduisant et pop. Il utilise les réflexions des surfaces, filme à travers les textures ou fabrique des cadres dans des cadres en assumant la promiscuité des petits lieux de tournage. Pour casser le gris du béton, il utilise toute une batterie de fils de couleurs chaudes en correspondance avec les costumes des comédiens. Doyle utilise le step printing d'Andrew Lau, mais ajoute son grain de sel. Il demande au comédien principal de se mouvoir en ralenti, tandis que la foule défile en arrière-plan. Avec cette subtilité, l'effet devient encore plus attractif. On a l'impression que le comédien est filmé normalement, alors que tout le mouvement d'arrière-plan est en effet de flou accéléré. Christopher Doyle fait très clairement un travail hors norme et chaque photogramme du film est très inspiré.
C'est dur le boulot que vous faites ?
Alors, viens ! Pas plus dur qu'un autre, ma foi. Je n'ai pas trouvé mon cousin, il m'a demandé de l'aider.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'ai fait plein de choses. J'économise.
Pour vos études ?
Les études, c'est pas mon truc. Pour faire des voyages.
Où voulez-vous aller ?
N'importe où. En Californie.
Tourné à la sauvette, le film se déplace sur des lieux de tournage plus confortables et pittoresques. Plusieurs séquences se déroulent à Graham Street Market, un marché de rue très apprécié des Hongkongais. L'appartement du matricule 663, joué par Tony Leung, n'est ni plus ni moins que le pied-à-terre de Christopher Doyle. L'appartement est situé dans le quartier Mid-Level, voisin de Central, et la fenêtre du logement donne sur un tapis roulant de 800 mètres reliant les deux zones. Fraîchement inauguré à cette époque, c'est le plus long tapis mécanique du monde. Bien entendu, l'équipe du film va sauter sur l'occasion pour y mettre en scène les plans les plus iconiques du film. Ce tapis roulant, aussi appelé Travel Elevator, a été depuis réutilisé au cinéma pour Chinese Box, le film de Wen Wang avec Jeremy Irons et Gong Li. On a pu également l'apercevoir dans Dark Knight de Christopher Nolan quand les personnages font une escapade à Hong Kong. Aujourd'hui, une pancarte interdit les photos pour dissuader les touristes de reproduire les plans de ces films et ainsi créer des embouteillages dans l'escalier mécanique.
Attention, attention, chaud devant.
Salut.
Encore vous?
Oui.
Superstar de la chanson mais actrice novice, Fei Wong peine à refaire les prises. Quand Wong Kar-wai tente de la diriger, elle lui répond « Tu as voulu Fei Wong, et ben voilà ce que tu as ». Elle s'impatiente vite, ce qui oblige Christopher Doyle à tourner toujours plus rapidement. Mais la jeune femme dévore l'écran, et Wong et Doyle ont l'intelligence de laisser son énergie communicative prendre totalement possession de son personnage.
Pourquoi on partirait pas tous les deux ? J'ai assez d'argent pour deux voyages.
On verra.
La fin du film devait réunir le matricule 663 et Fei à l'aéroport de Hong Kong pour un happy end. Mais la configuration du lieu et la densité de la fréquentation rend trop difficile et hasardeux le tournage guérilla. Un problème qui n'en est pas un pour Wong Kar-wai et sa méthode d'écriture qui intègre justement les aventures du tournage au fur et à mesure. Il opte pour un final plus simple, moins évident et sans aucun doute meilleur que cette idée première.
La Californie, c'était bien ?
La Californie ? Pas terrible, mais pas mal.
Le tournage s'achève après seulement 23 jours de tournage, soit une production bouclée avec une efficacité exemplaire. Aucun accident n'est à déplorer, juste la grogne des voisins du dessous de Christopher Doyle qui ont subi un dégât des eaux lors de la séquence de l'inondation de l'appartement.
Soit j'avais mal fermé un robinet, soit la maison avait du chagrin. Je n'avais pas prévu que la maison pleurerait. Quand on pleure, un mouchoir fait l'affaire. Mais une maison qui pleure, c'est beaucoup de travail.
« Wong Kar-wai monte Chungking Express rapidement, car il doit toujours finaliser Les Cendres du Temps. C'est sur ce film que le directeur artistique William Cheng prend officiellement la casquette de monteur, tandis qu'il avait déjà donné un coup de main en salle de montage sur Nos Années Sauvages et Les Cendres du Temps. C'est un moment très important dans la collaboration de ces deux hommes, car Chang est depuis le monteur de tous les films de Wong Kar-wai, en plus d'en assumer la direction artistique. Conscient de l'apport des musiques d'Asters Go By pour un public plus jeune, Wong Kar-wai soigne la bande-son de Chungking Express en la caviardant à nouveau de chansons populaires. Il surutilise la chanson California Dreaming, un tube américain des années 60 chanté par les Mamas and the Papas. Faisant revenir le refrain près de 10 fois dans le film, en associant cette mélodie à l'attitude fraîche et lumineuse de Fei Wong, le film reste dans la tête aussi sûrement que ce tube intemporel. Wong Kar-wai a l'idée de créer un tube pour le film pour maximiser son exposition. Il demande à Fei Wong de reprendre en cantonais la chanson Dreams des Cranberries. Renommé Dream Lover, le morceau est intégré dans la bande originale du film en CD, mais aussi sur l'album Random Thinking de Fei Wong. C'est l'un des plus grands succès de la chanteuse. Si le montage s'exécute sans contrainte ni pression, il est à noter que le film existe en deux versions. Une version de 98 minutes destinée au marché de Hong Kong et une version de 102 minutes destinée à l'international. Les différences se situent particulièrement au niveau de la première histoire. Certains moments avec les trafiquants indiens sont tronqués et la séquence où Brigitte Lin kidnappe une enfant est absente de la version HK. Les autres modifications sont des altérations de la bande sonore.
Allô ? Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ?
Vous avez une heure pour me donner les renseignements que je veux. Ou vous ne reverrez pas votre fille.
Quand Chungking Express sort en salle, c'est une bouffée d'air frais, une revigoration totale de l'esthétique du cinéma de Hong Kong. Le film est quelque peu chaotique et parcellaire, mais il n'est pas du tout frustrant. Au contraire, il donne l'impression d'être constamment en mouvement et implique le spectateur de manière viscérale dans une œuvre qui fait le choix du sensoriel au détriment du narratif. Un parti pris qui désacralise le cinéma d'auteur afin de le rendre branché et cool aux yeux d'une nouvelle génération. Aussi, le film parvient à mettre en scène un sentiment grisant d'insouciance chez ses personnages. C'est d'autant plus fort que nous sommes qu'à 4 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine et que la crise économique est déjà en Asie. C'est une période très anxiogène pour les Hongkongais, que Chungking Express exprime par le biais du matricule 223 et de son obsession du temps qu'il conçoit comme un compte à rebours.
Il y a toujours quelque part dans le monde quelque chose qui se périme. Les sardines se périment, le lait se périme, même les vœux se périment. Je me demande s'il y a une chose au monde qui ne se périme pas.
Outre sa réussite artistique, Chungking Express impose également un modèle de production imbattable pour une industrie locale allant en souffrance. À cette époque, nombreux sont les réalisateurs d'expérience qui ont fui à Hollywood ou qui ont annoncé le faire juste avant la rétrocession. Citons John Woo, Ringo Lam, Choi Ar, Kirk Wong ou encore Ronnie Yu. Avec Chungking Express, Wong Kar-wai devient un nouveau chef de file et prouve que le cinéma de Hong Kong a encore des choses à dire, qui plus est avec un budget très modeste. De jeunes cinéastes locaux vont s'inspirer de ce modèle, comme Fru Chan avec le très beau Made in Hong Kong en 97. Au Hong Kong Movie Award de 1995, Wong Kar-wai est omniprésent, car il est cité dans pratiquement toutes les catégories, aussi bien pour Chungking Express que pour Les Cendres du Temps qu'il a achevé entre-temps. C'est même la première fois qu'un réalisateur est en concurrence avec lui-même dans une cérémonie de ce calibre. Lors de la soirée, Chungking Express remporte le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Tony Hong Chiu-wai celui du meilleur acteur pour son rôle du matricule 663. Christopher Doyle est sacré meilleur chef opérateur image, mais pour Les Cendres du Temps. Quant au fidèle William Cheng, il remporte 3 statuettes. Meilleur montage pour Chungking Express, meilleure direction artistique et meilleur costume pour Les Cendres du Temps. Outre ce succès local, Chungking Express va enfin servir de passeport à Wong Kar-wai pour une reconnaissance internationale. Le film fait le tour des festivals à l'étranger, comme à Stockholm ou Locarno. En France, il sort en mars 1995, soit 6 mois après sa sortie à Hong Kong. Aux États-Unis, le film est repéré par Quentin Tarantino, qui le distribue sous la bannière de Rolling Thunder Pictures, une société qu'il a créée avec le parrainage de Miramax. Voici ce que dit d'ailleurs Tarantino du film. Quand j'ai vu Chungking Express, j'étais à un festival à Stockholm pour Pulp Fiction. Le film m'a soufflé. J'ai tout simplement adoré. Le film possède cette formidable saveur de comédie romantique tout en étant simultanément chassé dans ce monde frénétique et fou tel qu'il existe à Hong Kong. Maintenant que la lumière est tout entière sur lui, Wong Kar-wai a bien l'intention de battre le fer tant qu'il est chaud. Il n'oublie pas qu'il avait prévu une troisième histoire pour Chungking Express qu'il n'a pas réalisée faute de temps. En 1995, il repart illico en tournage dans des conditions légères avec Christopher Doyle à l'image. Le résultat, Les Anges Déchus, se place totalement dans la lignée de Chungking Express, mais son ton plus noir et plus âpre est plus difficile à appréhender.
La plupart des gens travaillent 8 heures par jour. Moi, c'est le contraire. Mon boulot est simple. De temps en temps, je vais chez des gens. Je ne les connais pas toujours. Mais ils ne m'intéressent pas. Bientôt, ils seront démolis définitivement.
Le film met encore en scène des personnages dans des histoires parallèles, dont Takeshi Kaneshiro, dans un rôle qui entretient beaucoup de similitudes avec son incarnation dans Chungking Express. Mais plutôt que de miser sur des segments étanches, Les Anges Déchus fait le choix de mélanger les histoires afin de passer régulièrement de l'une à l'autre.
On dit que ce sont les femmes qui pleurent. Les hommes aussi pleurent. D'habitude, un premier amour, c'est quand on est jeune. Moi, ça m'arrive un peu plus tard. Je dois être trop difficile.
Pour un public qui les suit depuis leur début, il est clair qu'avec ce film, Wong Kar-wai et Christopher Doyle commencent à se reposer sur leur laurier, ce qu'ils admettent volontiers en interview. Mais pour le public international qui vient de les découvrir, Les Anges Déchus est une claque stylistique. De plus, Nos Années Sauvages et Les Cendres du Temps sont redécouverts et sortent coup sur coup en salle en Occident. Le duo devient omniprésent.
Il y a des gens dont on ne peut jamais se rapprocher. Ceux qu'on connaît trop finissent par vous ennuyer.
Le milieu de la publicité ne reste pas insensible à leur univers, et Wong et Doyle sont courtisés pour mettre en scène les plus grands spots du moment sous forme de courts-métrages. Ils font un film pour le designer japonais Takeo Kikuchi, et un autre pour le fabricant de téléphones Motorola avec Fei Wong. Des œuvres qui font grincer quelques dents à Hong Kong, compte tenu des budgets faramineux que leur sont alloués, tandis que les longs-métrages locaux s'enfoncent toujours plus dans la précarité. Après la présentation d'As Tears Go By dans l'indifférence générale, le Festival de Cannes a bien l'intention de ramener le réalisateur dans sa compétition. Wong Kar-wai est informé qu'une place lui est réservée dans la sélection officielle de 97 si jamais il avait un nouveau film à proposer. D'abord surpris des méthodes de sélection du festival, Wong répond présent même s'il n'a pas écrit une ligne d'un nouveau projet. Pour éviter de radoter artistiquement, Wong et Doyle s'installent en Argentine pour tourner Happy Together avec Leslie Cheung et Tony Leung Chiu-Wai, un très beau film d'amour contrarié entre deux hommes, un sujet que Wong s'est dépêché de concrétiser de peur que la rétrocession imminente à la Chine censure le thème de l'homosexualité. Wong Kar-wai reçoit le prix de la mise en scène et devient le premier réalisateur hongkongais primé à Cannes. Chungking Express, Les Anges Déchus et Happy Together peuvent être vus comme une famille de films qui se répondent, dans leur thème, dans leur esthétisme visuel, mais aussi dans leur organisation de production où écriture et mise en scène sont comme l'œuf et la poule, difficile de distinguer ce qui est à l'origine de l'autre. Ce trio d'œuvres forme assurément le sommet de la carrière de Wong Kar-wai et Christopher Doyle. Wong Kar-wai rentrera définitivement au panthéon des auteurs internationaux avec son film suivant, In the Mood for Love, et sa présentation triomphale à Cannes en 2000. Grand prix technique pour Christopher Doyle et prix d'interprétation masculine pour Tony Leung Chiu-Wai. Sa partenaire Maggie Cheung n'aura pas le prix d'interprétation féminine au profit de la performance hors norme de Björk pour Dancer in the Dark de Lars von Trier. Mais elle décrochera cette récompense à sa prochaine visite à Cannes en 2004 avec le film Clean d'Olivia Assayas. Il ne trompe personne qu'il s'agit d'un prix de rattrapage pour son jeu dans le film de Wong Kar-wai.
Je ne pensais pas qu'il serait si compliqué de vivre en couple. Quand on est seul, on est redevable qu'envers soi. Mais une fois marié, c'est autre chose.
Le bonheur doit se construire à deux.
Mais derrière ce sacre international, c'est le déclin d'une dynamique en coulisses. La méthode de Wong Kar-wai de construire le film au fur et à mesure du tournage, dopée à un budget conséquent issu de capitaux étrangers, a fabriqué une expérience éreintante pour l'équipe et les acteurs. Sans limite ni garde-fou. Par exemple, alors que le tournage d'In the Mood for Love a commencé depuis 6 mois, Wong Kar-wai décide que Tony Leung ne doit plus porter la moustache et recommence toutes les prises. Beaucoup de collaborateurs montrent des signes d'agacement quand ils ne sont pas tout simplement perdus dans les méandres des tâtonnements et des reshoots de l'histoire. Pourtant rompu à l'exercice, Christopher Doll ne parvient plus à comprendre le film qu'il est en train de tourner. Il quitte le plateau et c'est le chef opérateur Ping Bin Lee, collaborateur du réalisateur taïwanais Hao Soo-sien, qui termine le film. Ce sentiment de rupture atteindra son paroxysme avec le prochain film de Wong Kar-wai, 2046, annoncé en compétition officielle à Cannes en 2003, pour être finalement présenté l'année suivante en 2004. Et encore, au terme d'un suspense particulièrement embarrassant. Le jour de la projection, le festival n'avait toujours pas l'intégralité de la copie du film. Les bobines manquantes seront apportées par le cinéaste lui-même par avion privé, dont il se murmure qu'il aurait bénéficié pour l'occasion d'un couloir aérien. Alors qu'elle était annoncée comme l'héroïne du film, le public découvre médusé que Maggie Cheung ne fait plus qu'une minuscule apparition. Bien que toujours crédité à la photographie, Christopher Doll avoue n'avoir filmé que la moitié du film, tellement les dépassements de planning et les tergiversations ne lui paraissaient plus compatibles avec son travail. Annoncé comme l'événement du festival, le film repart bredouille et la méthode Wong Kar-wai vient d'en prendre un coup. Même s'il reste en bons termes, Wong Kar-wai et Christopher Doll à ce jour, ne retravailleront plus ensemble.
Pour évoquer la première découverte du film, j'ai le plaisir de recevoir mon invité Jonathan. Merci d'être avec nous.
Merci Eric.
Alors Jonathan, tu es l'un de nos fidèles auditeurs, tu es cinéphile, professeur de cinéma et réalisateur de courts-métrages. Alors la première question qu'on va te poser forcément, c'est comment tu as découvert Chungking Express pour la première fois ?
D'abord, merci, je suis très touché de participer et que tu me poses la question. Bah, écoute, relativement récemment, en fait, lors d'un pèlerinage cinématographique dans le quartier latin, où en fait le film est ressorti dans une très belle copie restaurée. Ce film ne constitue pas ma première rencontre avec le cinéma de Wong Kar-wai. J'avais pu découvrir dans les années 2000 ces deux grands chefs-d'œuvre, In the Mood for Love et 2046. Ça a été un choc, évidemment. Et je me rappelle qu'à l'époque, je passais en candidat libre le bac cinéma. Et donc pendant l'oral, j'ai dû parler du film et improviser dessus. Et c'était assez intimidant. Et en même temps, hyper exaltant, parce que voilà, c'était la grande époque de la Wong Kar-wai mania et tout ça. Et puis après, en fait, j'ai fonctionné comme avec pas mal de réalisateurs, j'ai fonctionné à rebours. C'est-à-dire que j'ai découvert ses films des années 90 et son premier film un peu plus tard. Ouais, j'avais tout raté, un peu comme un gros naze. Mais je me rappelle par exemple de As Tears Go By, son premier en 88. En plus, c'est l'année de ma naissance. Et j'avais adoré le côté film d'action à la Tsui Hark ou John Woo, mais revisité par un romantique des années 80. Et puis j'avais beaucoup aimé la place de la musique aussi dans ce film. Je me rappelle encore je crois que c'est la chanson de Top Gun qui est reprise en cantonais.
Oui, c'est cela.
Ouais, j'avais trouvé ça super, super. Enfin, moi, ça me fait penser à ce mouvement musical, les nouveaux romantiques, donc ces groupes un peu kitsch des années 80, donc avec un côté pop hyper dansant et enlevé, et en même temps un truc très mélancolique. Moi, j'appelle ça le spleen des années 80. Dans tous ces films, on a l'impression qu'à chaque fois, les personnages sont des amateurs ou des passionnés de musique, et ils écoutent de la musique en permanence, ils écoutent le même morceau en boucle. Et j'adore ça, en fait, que c'est pas comme dans le cinéma classique où on a une musique extra-diégétique. Là, c'est vraiment les personnages qui parlent de musique et écoutent de la musique dans la scène. Ils relancent le morceau parce qu'ils l'adorent. Je sais que c'est le cas dans Chungking Express. Bah, un peu comme dans les films de Tarantino de la même époque, en fait. Ils font beaucoup ça tous les deux.
Oui, tout à fait, oui, ils ont vraiment ça en commun.
Et toi, du coup
Alors, bah, moi, si tu veux, Chungking Express, c'est particulier, Wong Kar-wai aussi, parce que je suis un peu plus âgé. Quand arrive le film, alors il est venu un petit peu en décalage avec nous, mais j'ai grosso modo 20 ans, donc j'ai pile l'âge pour vraiment prendre une baffe. Alors, le film, pour autant, je ne l'ai pas vu en salle quand il est sorti, alors que j'aurais pu, mais j'habitais en province à l'époque, à Nantes, et ce n'était pas si évident d'avoir accès à ces films-là, un peu différents. C'était quand même assez peu représenté. Et le cinéma de Hong Kong était très peu accessible. Hein. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas tout ça. Et donc, on était tributaire des sorties salles. Et dans une ville de province qui avait des cinémas d'art et d'essai qui étaient très limités, les fenêtres étaient très difficiles à voir. Et je me souviens déjà qu'à cette époque, je venais de découvrir John Woo par le biais d'À toute épreuve qui était sorti, que j'avais vu sans savoir ce que c'était au détour d'une fête du cinéma. J'étais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'avait explosé la tête. Choyark aussi, je lisais, je fantasmais dans certaines revues qui étaient déjà assez limitées, des articles sur ces films. Il y avait une rétrospective à ce moment-là qui était sorti, je séchais, je me souviens, les cours, pardon mes professeurs, pour aller voir les films de Choyark, c'était une sélection. Et j'ai loupé Chungi Express, mais j'en ai entendu parler. Et donc, moi, je l'ai vu la première fois dans l'un des autres canals très importants de ma génération, parce qu'il y avait le cinéma, le vidéoclub, mais là, je parle de Canal+, qui diffusait les films juste après, hein. C'est toujours le cas maintenant, mais c'était exclusif à l'époque. Et je l'ai découvert à la télé. Donc télé, 4 tiers, etc. Et c'est là où je me suis pris effectivement une grosse baffe. Et l'époque a été importante parce que j'ai vu Chungi Express qui m'a beaucoup marqué. Et comme je l'ai vu à la télé après sa sortie cinéma, et bien tout de suite après, il y avait Les Anges Déchus qui étaient en salle à ce moment-là. Donc je l'ai vu très peu de temps après. Et comme il y avait les anciens Wong Kar-wai qui ressortaient, j'ai pu voir Les Cendres du Temps au festival Les Trois Continents à Nantes, qui est un festival qui est important. Nos Années Sauvages aussi qui est re-ressorti. Et se prendre ça coup sur coup, c'était vraiment quelque chose à l'époque. Maintenant, j'ai une question aussi qui me taraude, je te donnerai peut-être mon sentiment après. Cette question, c'est Chungi Express, c'est deux parties, c'est deux films qui sont étanches d'une certaine manière. Est-ce que toi, tu as le même ressenti sur les deux parties? C'est-à-dire, est-ce que tu les aimes de manière équivalente ou est-ce qu'il y a une partie qui prend plus de place pour toi dans ton appréciation du film?
Très bonne question, difficile d'y répondre. J'aime beaucoup la structure en deux parties. Et comment les deux parties se répondent finalement, malgré effectivement l'espèce de d'étanchéité dont tu parles, de séparation très nette. On sent que voilà, thématiquement, les films sont très proches. Cela dit, je suis quand même tombé sous le charme de Brigitte Lin dans la première partie du film de Wong Kar-wai. Je l'avais déjà vu dans le film de Ronnie Yu. Qui était sorti, je crois, un an avant, The Bride with White Hair. Désolé pour mon accent anglais. C'est déjà une actrice que j'avais beaucoup aimée dans ce film. Elle avait un rôle formidable et là, je l'ai retrouvée affublée d'oripeau, très, très film noir en fait. Elle ressemble à une femme fatale avec le trench coat, la perruque blonde, les lunettes noires, la cigarette. Ça, c'est pour mon côté fétichiste. Mais j'aime beaucoup voilà, son côté aussi badass du racuir à l'extérieur et puis beaucoup plus vulnérable et fragile à l'intérieur. Au moment où justement le héros finalement passe une nuit avec cette femme mystérieuse. Voilà. Mais j'aime beaucoup le mystère qui entoure son personnage et puis comment il suggère par petites touches ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle essaie de fuir en assassinant ce type à un moment donné. Enfin, je ne veux pas trop dévoiler ni déflorer la découverte pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film. Mais voilà, j'ai beaucoup fantasmé ce personnage et son histoire, et la potentielle histoire d'amour entre les deux. Et je crois que je suis un peu tombé amoureux d'elle, en tout cas de cette figure féminine. Mais du coup, toi, est-ce que t'as une préférence? Et j'ai presque envie de dire, est-ce que t'as une figure féminine que tu préfères? Ou une histoire?
Alors, moi, c'est amusant parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai un très gros coup de cœur pour la deuxième partie. Alors, la figure féminine, c'est vrai. Alors, moi, c'est Fei Wong avec sa coupe garçonne qui ne fait aucun effort et qui est pourtant absolument lumineuse et irrésistible. Et puis, avec cette association de la musique qu'elle écoute en boucle et qui revient tout le temps. Donc, ce que tu disais sur l'utilisation de la musique est vraiment sur ce personnage. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Tony Leung, le personnage aussi masculin. Et je trouve cet acteur tellement extraordinaire que c'est vrai que je découvrais à l'époque. Hein. J'ai adoré ce duo d'acteurs. Ça ne veut pas dire que les acteurs de la première partie sont en dessous. Hein. Mais j'ai eu un coup de cœur absolument inexplicable. Je ne sais pas comment dire. Voilà, ça défie l'analyse. Mais moi, j'ai été très emporté. Une autre question, Jonathan, c'est, même si tu as vu le film récemment, en quoi ce film-là s'est détaché du lot de tous les films que tu vois, parce que tu regardes beaucoup de films de toutes les époques, de toutes les nationalités, donc en quoi Chungking Express s'est dégagé différemment de tous les films que tu vois?
Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il utilise en fait l'intrigue policière ou criminelle comme point de départ, et puis après il prend la tangente assez rapidement d'ailleurs. Donc il semble s'inscrire dans un genre ultra codifié, avec effectivement les flics d'un côté, les truands de l'autre, des personnages interlopes comme ça, la figure de la prostituée, enfin voilà. On est vraiment dans les bas-fonds d'une grande métropole, alors non pas aux États-Unis ou dans un pays d'Occident, mais on est à Hong Kong, donc ça déjà c'est original. Et puis je trouve qu'il a une approche un peu qui me rappelle Antonioni, enfin le cinéma d'Antonioni, dans le côté, voilà, il y a cette figure féminine, mystérieuse, qui est un peu insaisissable, pardon, qui disparaît à un moment donné de l'intrigue. Et puis les personnages évoluent dans un monde saturé par, alors chez Antonioni, c'est l'ère industrielle, chez Wong Kar-wai, c'est la technologie. On sent que voilà, c'est une île où il y a beaucoup d'activités, et on a vraiment l'impression, voilà, que le monde a beaucoup changé, mais l'être humain est resté le même, et il se sent de plus en plus seul dans cet environnement, et il aspire toujours à trouver l'amour. Donc voilà, je voulais faire ce parallèle et ce pont avec l'œuvre d'Antonioni, que j'aime par ailleurs beaucoup.
Pour finir notre échange, dernière question. Nous avons vu donc le cinéma d'Hong Kar-wai, on l'a découvert par des biais différents, par des entrées différentes, par des chronologies différentes. Alors est-ce que tu estimes que Chungking Express est l'un des meilleurs films de Hong Kar-wai, le meilleur film de Hong Kar-wai? Est-ce qu'il est éclipsé à tes yeux par des films qui ont eu des reconnaissances internationales plus marquées?
Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que je trouve à la fois typique de son auteur, hein, il va cocher toutes les cases, hein, d'un film réalisé par Wong Kar-wai, on retrouve ses obsessions, ses thématiques et son style très particulier, qui est en plus très très marqué, surtout dans la première partie, comme tu disais. Et c'est aussi un film insolite, hein, qui sort un peu du lot. Il est un peu à mi-chemin entre ses films du début de sa carrière, qui sont beaucoup plus, ce sont des films beaucoup plus artisanaux, tournés à la force du poignet, et puis avec une véritable énergie. Et oui, souvent quand on aime le cinéma de genre, on aime ça parce qu'on aime aussi... On a l'impression d'assister à la fabrication du film, de voir le film se faire en même temps qu'il est projeté. Enfin, c'est une sensation qui est hyper agréable, et surtout quand on aime soi-même, même à un niveau amateur, fabriquer des films et réaliser des courts-métrages. Non, oui, clairement, pour moi, c'est un peu l'acmé, l'apogée de son œuvre. Parce que voilà, il contient tous les points, tous les éléments positifs de ses débuts. Cette espèce de sincérité, de naïveté aussi, dans la façon de faire. Je conseillerais effectivement peut-être de démarrer par celui-ci, parce qu'il est à mi-chemin entre les deux. Voilà, pour vraiment les fans hardcore du cinéma de Hong Kong, c'est un film intéressant, et puis pour des gens qui ne sont pas vraiment familiers de ce type de cinéma, ça reste un film passionnant et une amorce intéressante et originale pour une bonne entrée en matière, en tout cas pour le cinéma de Wong Kar-wai. Pour toi, que représente ce film au sein de la carrière de Wong Kar-wai?
Pour moi, Chungking Express, c'est à la fois la naissance et une forme de sommet du réalisateur, de son auteur, mais aussi de ses collaborateurs, hein, parce qu'ils sont beaucoup aussi derrière lui. C'est un sommet qui est très imparfait et qui est même un petit peu branquignol par-ci par-là, mais c'est ça que je trouve absolument passionnant, et c'est ça que je trouve vraiment en concordance aussi avec le cinéma de Hong Kong, qui n'était pas un cinéma parfait. C'était des films qui étaient faits trop vite, qui étaient faits à la rage des fois certains. On est fasciné par des polars où ils tirent à blanc à même la rue, etc., avec les flics qui débarquent, et puis les acteurs qui étaient tellement connus à jouer les policiers que finalement ça se réglait comme ça à la tchatche. Ça, pour moi, ça encapsule, comme tu l'as dit, tout un état d'esprit, toute une industrie, et je trouve que c'est un sommet indépassable. Je dois t'avouer que je suis moins fan des films qu'il fait après, avec des capitaux étrangers, avec la reconnaissance internationale qui était un petit peu prédite, avec In the Mood for Love et compagnie. In the Mood for Love, je l'ai vu, je suis à la fois très heureux de voir ce cinéma dans un tel écrin, de voir des comédiens que j'adore, Tony Leung, Maggie Cheung, je suis forcément très ému de les voir récompensés à Cannes, mais aussi j'y vois, ah, je suis désolé de le dire comme ça, une forme un peu d'embourgeoisement, hein, de ce cinéma. Et c'est un cinéma qui vient de la rue, et Wong Kar-wai, il vient aussi des quartiers populaires, quoi. Ce qu'on a gagné en perfection cinématographique, je trouve qu'on l'a perdu en sincérité. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, fait la différence et qui fait que Jungle Express est à mes yeux, mais je, voilà, ce n'est que mon médiocre avis, et pour moi le sommet de son auteur, quoi, ce qui n'empêche pas que tout ce qu'il aura fait après sera forcément extrêmement intéressant, bien évidemment.
C'est la fin de ce retour à l'écran consacré à Jungle Express de Wong Kar-wai. Si vous souhaitez le voir ou le revoir, le film est disponible via un coffret DVD Blu-ray, regroupant également Nos Années Sauvages, Les Anges Déchus et Happy Together. Cette édition est cependant vieillissante, avec une copie perfectible et une interactivité très anecdotique. Mais la récente ressortie en salle de Jungle Express dans une copie restaurée laisse imaginer que nous reverrons bientôt le film en vidéo dans les meilleures conditions. Vous n'aurez aucun mal à trouver les autres films de Wong Kar-wai en support physique, même à Steers Go By qui est édité en 4K chez nous. A noter que Les Cendres du Temps est ressorti en 2008 en salle et édité depuis en vidéo dans une version dite Redux, plus courte d'une dizaine de minutes et avec un étalonnage différent. Pour les curieux, nous conseillons également de visionner le court-métrage One Tenth of a Millimeter Apart. Il s'agit d'un montage d'archives inédites des films de l'auteur, avec notamment des images des scènes coupées de Chungi Express. Ce sera notamment l'occasion de découvrir le visage de Brigitte Lin sans ses lunettes rouges. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier pour votre écoute et l'on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Retour à l'écran.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. You're talking
to me? Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat?
C'était pas ma guerre.
Back in full force.
Quelle est votre devise?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.